Bonjour chers auditeurs, bonjour chers Cantariens et Cantariennes, bonjour la Méditerranée, heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Cantara, un numéro qui vous propose, comme chaque semaine, de faire le tour de la Méditerranée. Ce tour commencera par l'Égypte, où une délégation italienne est en visite pour briser la glace entre les deux pays et rétablir la paix. Une visite qui marque la profondeur des relations égypto-italiennes et l'attachement des deux pays à réaliser la complémentarité face aux défis et obstacles qui ont travé leur chemin. Mona Farid de Radio Le Caire a rencontré Madame Rosa Maria Falla, membre d'une association italienne pour la légalité internationale, en visite en Égypte. En Tunisie, à quelques jours de la commémoration du 9e anniversaire de la Révolution, je vous propose de rencontrer Daniel Soual. Il a été diplomate représentant de Wallonie-Bruxelles en Tunisie depuis 2008 à 2015 et il vient de publier un roman hommage à la Révolution tunisienne intitulé « La venue, la Casbah ». Nous irons ensuite en Corse. Pierre-Louis Alessandri de Radio France Bleu RCFM nous propose une interview de Sampiero Sanguinetti, journaliste, écrivain, ancien directeur des antennes de France 3 Corse. Il publie un livre intitulé « Corse, de quoi la mafia est-elle le nom ?». Notre voyage se terminera en Palestine. Violette Rafidi de Radio Palestine Internationale nous emmène à Beit Lahm, la ville où est né Jésus selon la tradition chrétienne. Elle y a rencontré des enfants, mais aussi des figures palestiniennes bien connues, comme Hanan Ashraoui. Mais avant de lancer notre premier reportage et notre première chanson, nous rappelons, chers auditeurs, que Cantara est le fruit d'une large coopération méditerranéenne.
Cantara est le fruit d'une coopération interméditerranéenne qui englobe Radio Le Caire, Radio Publique Libanaise, Radio France, Radio Bleu, Frequenza Mora, RTCI Tunis, Maroc Inter et Radio Extérieur d'Espagne.
Nous démarrons ce numéro avec une valse, histoire de nous mettre en gaieté en ce début d'année. Pierre-Louis Alessandri nous propose La Sartenaise, une valse interprétée par le guitariste Paolo Chilici.
C'est Cantara, le magazine de la Méditerranée.
Nous démarrons notre tour de la Méditerranée en Égypte. Une délégation italienne est en visite en Égypte pour briser la glace entre les deux pays et rétablir la paix. Une visite qui marque la profondeur des relations égypto-italiennes et l'attachement des deux pays à réaliser la complémentarité face aux défis et obstacles qui entravaient leur chemin. D'ailleurs, les relations étroites qu'entretiennent l'Égypte et l'Italie via le commerce international et les rapports commerciaux, industriels et culturels sont importante. Dans ce cadre, Mona Farid de Radio Le Caire a rencontré Madame Rosa Maria Falla, membre d'une association italienne pour la légalité internationale.
La paix, la tolérance, la fraternité sont toutes des valeurs humaines auxquelles on aspire dans tous les quatre coins du monde. Non seulement en Égypte, mais ailleurs, en Europe, en Asie, en Amérique, tout le monde prie pour réaliser ces valeurs humaines. À cette occasion, nous avons eu le plaisir d'accueillir en Égypte une délégation italienne qui est venue exprès pendant ces quelques jours de festivités où l'on célèbre Noël, où l'on célèbre le Nouvel An. On va accueillir toute la nouvelle année avec tous ses espoirs. Et nous avons le plaisir d'avoir avec nous sur Radio Le Caire une des membres de cette délégation, Madame Rosa Maria Fala, qui va nous parler de sa participation et de l'objectif pour lequel cette délégation est venue en Égypte.
Moi, je fais partie d'une association italienne qui s'appelle Parlement de la Légalité Internationale et qui a organisé un voyage culturel sur invitation d'une organisation égyptienne formée par 64 personnes qui font partie de cette organisation avec les buts de parler de fraternité, des rencontres, de dialogue, de reprendre un dialogue entre Italie et Égypte qui a été interrompu. Moi, je suis une professeure de français et donc, de ma part, je participe à cette organisation dans le domaine de l'éducation. Je cherche à éduquer les élèves, à dépasser les barrières, donc les préjugés. Et surtout, je travaille toujours à faire rencontrer, même d'une façon virtuelle, à travers des projets, par exemple, entre les élèves italiens et les élèves égyptiens.
Vous venez de me parler de ce Parlement de l'égalité. C'est quoi exactement?
C'est une organisation, une association importante et qui ont comme but de porter les idéaux et les valeurs de l'égalité et du respect des règles, des lois pour une convivence entre les hommes d'une façon pacifique, une participation active à la vie démocratique.
Donc les activités de cette association envisagent particulièrement les institutions italiennes?
Alors, c'est regarder d'une façon plus active et tout ce qui se passe autour de nous. C'est et d'agir surtout, pas seulement de regarder. Regarder pour agir et pour bouger dans la société et promouvoir des valeurs, des grandes valeurs. Les valeurs de la liberté, de la légalité qui est très important chez nous dans ce moment et surtout de la fraternité, de la paix aussi. Et donc, il faut reprendre les rapports pacifiques, mais surtout des dialogues qui rencontrent. Parce qu'on est 64 et parmi nous, il y a des journalistes italiens très importants, du journal Messaggero, du Vatican, et il y a aussi un ministre, donc il y a des professeurs, bien sûr, des principales, mais ce sont des hommes qui travaillent activement dans la société italienne et donc qui veulent dire nous sommes prêts à commencer un dialogue réel. Et donc, venir ici, c'est pour nous une façon pour reprendre réellement les dialogues, pour parler, pour se rencontrer. Et on a trouvé aussi des liens communs, qui est la Sacrée Famille, c'est-à-dire on va parcourir les lieux où la Sacrée Famille, est, après la fuite en Égypte, est restée. Et donc, c'est aussi un voyage spirituel aussi, aussi la famille. On sait par exemple que pour vous égyptiens ou musulmans ou chrétiens coptes, la famille est très importante, comme pour les Italiens. Donc il y a aussi ces points en commun. Donc il faut trouver des points communs pour dépasser les barrières, pour dépasser les préjugés. On va continuer et on pense qu'en Égypte, il y a beaucoup de personnes extraordinaires qui ont vraiment la possibilité de créer ces ponts entre l'Italie et notre association et l'Égypte.
Donc, Madame Rosa Maria Fala, vous êtes déjà sur la terre de la paix, l'Égypte, qui était depuis très longtemps le berceau des religions. Donc, vous êtes toujours la bienvenue avec vos compatriotes et vos collègues. Et bien sûr, on aura une autre rencontre sur Radio Le Caire. Je vous remercie infiniment.
Merci beaucoup.
Qui mieux que les artistes pour nous aider à instaurer une culture de dialogue et promouvoir les valeurs de paix et de fraternité? Il y a quelques décennies, une artiste, une star, a jeté un pont par-dessus la Méditerranée. Un pont qui reliait l'Égypte à l'Italie, justement. Elle incarnait à elle seule notre Méditerranée en ensoleillée et tragique, elle s'appelait Dalida. Nous restons au sud de la Méditerranée. 9 ans après la révolution du jasmin, la Tunisie s'apprête à commémorer ce 14 janvier, l'anniversaire de sa révolution qui a déclenché ce qui est communément appelé le printemps arabe. À l'inverse de plusieurs pays de la région, la Tunisie est toujours considérée comme une exception. Toujours est-il que malgré les avancées politiques, les résultats au plan économique et social sont restés en deçà des aspirations des Tunisiens. Depuis janvier 2011, plusieurs gouvernements ont défilé par la Casbah sans pouvoir répondre aux attentes des protestataires dont le leitmotiv était « liberté, dignité et justice ». Les défis qui attendent donc la nouvelle équipe proposée par le nouveau chef du gouvernement tunisien sont nombreux, d'autant plus que les Tunisiens retiennent leur souffle face à l'enlisement de la Libye dans une guerre civile qui dure depuis presque 10 ans et l'escalade des tensions au Moyen-Orient qui risque de déstabiliser de plus en plus l'équilibre géopolitique de la région. Dans Kantara, cette semaine, nous avons choisi la littérature pour commémorer cet anniversaire. Mon invité est l'auteur Daniel Soile. Il a été diplomate représentant de Wallonie-Bruxelles en Tunisie de 2008 à 2015. L'avenue La Casbah est son 3e roman, un roman hommage à la révolution tunisienne.
Kantara, nuestro programa intermediterráneo.
Daniel Soile, bonjour.
Bonjour à vous, merci de votre invitation.
Merci d'être notre invité, d'avoir accepté cette invitation pour nous parler justement de ce roman. Vous êtes de retour en Tunisie pour la présentation d'ailleurs de ce livre. Vous revenez régulièrement en Tunisie, Daniel Soile.
Oui, je me suis attaché à ce pays et donc je fais en sorte d'y revenir une ou deux fois par an au minimum et de retrouver tous les contacts que j'ai pu faire au fur et à mesure de ces 7 années en Tunisie.
C'est un pays que vous connaissez très bien, vous y avez vécu, vous avez vécu surtout la révolution de l'année 2011 qui vous a fortement marqué. Et alors vous avez voulu transcrire dans un roman ce que vous avez vu, ce que vous avez entendu, mais surtout ce que vous avez éprouvé pendant cette période. L'avenue, La Casbah, parlez-nous de ce roman, Daniel Soile.
Oui, l'avenue La Casbah, c'est un titre qui pour les Belges est un peu mystérieux,
oui.
Mais pas pour les Tunisiens.
Pas pour les Tunisiens,
les Tunisiens se doutent que si je parle de l'avenue, c'est bien sûr de l'avenue Bourguiba dont je parle. Mmh. Et si je dis La Casbah, ils savent que c'est cette esplanade qui se trouve à proximité des ministères et où les jeunes qui ont fait la révolution se sont retrouvés faisant ce chemin depuis l'avenue où ils se rassemblaient jusqu'à La Casbah où ils exprimaient leurs revendications.
À quel moment vous avez décidé d'écrire ce moment important de l'histoire de la Tunisie dont vous avez été témoin il y a 8 ans, ou est-ce que c'est venu un peu plus tard quand même ?
C'est venu un peu plus tard. Mmh. Je ne suis pas sûr qu'un écrivain doive se plonger immédiatement dans l'événement. Je crois qu'il est bon de laisser passer un peu de temps. D'abord, jusqu'en 2015, j'étais au travail en Tunisie.
Oui.
Donc, mon métier consistait à mettre en contact des porteurs de projets tunisiens et belges dans différents domaines, notamment la culture, l'éducation, la formation professionnelle. Donc, j'avais peu de temps pour écrire. Je suis à la retraite depuis 2015 et donc j'avais le temps à ce moment-là de reprendre mes notes, de me rappeler le plus précisément possible, parce que vous savez, un bon livre est un livre qui évite les généralités, qui va dans les détails, qui met en évidence des petits faits qui sont révélateurs. Et donc là, j'ai pu revenir sur tous ces faits que j'avais vécus, la révolution bien sûr, mais aussi les mois qui ont précédé et les mois qui ont suivi. Donc je situe l'histoire, hein, c'est donc bien un roman, hein, ce n'est pas un récit historique, même si ce que je dis de la révolution est fidèle à la réalité, c'est quand même une histoire romancée, une rencontre d'un homme et d'une femme, d'un jeune homme belge et d'une jeune femme tunisienne qui se rencontrent avant la révolution et qui, peu à peu, à travers l'événement social, à travers le soulèvement, se rapproche sérieusement, si je puis dire.
Oui.
Et donc, voilà. Puis après, les lecteurs verront ce qui se passe. Mais donc, il m'a semblé que l'événement, c'est-à-dire ce qui s'est passé ici le 14 janvier et, disons, les 2 mois qui ont suivi, était une matière romanesque extraordinaire.
Alors, vous mettez donc en scène un caméraman belge et une jeune Tunisienne qui sont tombés amoureux l'un de l'autre et qui, en rentrant vers Tunis, découvrent le soulèvement populaire. Alors, vous avez choisi Alissa comme prénom à la jeune fille, le nom de la reine de Carthage, la fondatrice de Carthage. Pourquoi ce choix, Daniel Soile ?
parce qu'il me permettait de faire un lien avec un opéra qui est bien connu en Europe, qui est Didon et Énée. Et donc, c'est une musique magnifique qui a donc été écrite au XVIIe siècle. Et il me semblait que l'histoire un peu mouvementée et un petit peu dramatique de ce couple-là, qui est donc pour une part imaginaire et qui donc est la rencontre du roi de Troie Énée qui débarque à Carthage, il me semblait qu'il y avait là un lien assez évident avec ce couple que j'invente littéralement pendant la Révolution, d'autant plus que ce qui va leur arriver, quand le départ d'Énée qui retourne à Rome et qui donc laisse Didon abandonné malgré les sentiments forts qu'ils éprouvent l'un pour l'autre, il y avait là un lien avec que je trouvais qui n'était pas artificiel, en fait, qui avait du sens entre ce qui se passe entre Alissa et son amoureux Élie.
Élie. Donc c'est un roman d'amour, mais de haine aussi. Les deux sentiments sont dans ce roman simultanément. Les deux protagonistes se rencontrent, se découvrent et s'aiment au milieu des turbulences d'une révolution portée par des jeunes qui ont beaucoup de haine vis-à-vis d'un système ou d'une dictature en place depuis quand même plusieurs décennies.
Oui, tout à fait. J'emploie le mot colère plutôt que le mot haine. Il y a une colère longtemps contenue et qui soudain, de manière qui nous a tous surpris, je crois que peu de gens l'avaient prévu, une colère qui non seulement survient, mais débouche sur un mieux. C'est-à-dire que on ne pouvait pas imaginer que cette colère-là puisse l'emporter, or c'est ce qui s'est passé. Et donc, voilà, j'ai voulu effectivement évoquer ce moment. Je pense que le mouvement social favorise la rencontre des êtres. Là, j'ai mis en place un amour, mais on aurait pu parler d'une amitié entre deux hommes, on aurait pu parler de beaucoup de choses. Je pense que si on manifeste depuis la place Mohamed Ali et qu'on se rend vers le ministère de l'Intérieur en cortège, on a l'impulsion de se tourner vers les camarades qui se trouvent de part et d'autre et de les prendre littéralement dans ses bras. C'est ce qui s'est passé, je crois. Quand on regarde les images du 14 janvier et que l'on voit tous ces corps serrés les uns contre les autres avec cette extraordinaire unanimité, solidarité qui s'exprime à ce moment-là, il y a là quelque chose qui, sur le plan affectif, signifie beaucoup.
Tout à fait. Alors, l'histoire commence au sud de la Tunisie, dans une région dans une région où les populations manquent de beaucoup de choses, peut-être de tout, alors que des classes dirigeantes affichent une richesse insolente. Alors, ce déséquilibre social, si je peux dire, ou régional, ne pouvait pas ne pas être présent et mis en évidence dans ce roman, alors que c'était aussi l'origine du soulèvement en 2011.
Tout à fait, tout à fait. J'ai eu la chance dans le métier qui était le mien de pouvoir circuler dans le pays. Et donc, j'ai notamment été à Guermassa, qui est ce village qui se situe à environ 40 kilomètres au sud de Tataouine, qui est un village magnifique, qui avait frappé l'imagination d'un cinéaste belge qui s'appelle Jean-Jacques Andrien et qui a réalisé un film très remarquable qui s'appelle « Le fils d'Amr est mort ». Le cinéaste s'appelle donc Jean-Jacques Andrien et quand je l'avais rencontré avant d'être nommé en Tunisie, il m'avait dit « si tu peux me faire revenir à Guermassa 35 ans après le tournage du film, tu vas être surpris ». Et c'est ce qui est arrivé. Donc je l'ai accompagné à Guermassa et j'ai pu me rendre compte à ce moment-là à quel point les gens du sud tunisien sont à la fois fidèles à leur amitié qui s'était nouée avec ce cinéaste et aussi d'une hospitalité sans faille. Et l'indice ou la preuve de ça, c'était que quand nous sommes revenus dans ce village situé sur la colline, l'homme qui nous a accueillis, qui l'a accueilli, lui, Jean-Jacques Andrien, a dit « Écoute, la grotte dans laquelle tu as dormi, nous l'avons réservée pour toi. Elle t'attend depuis 35 ans. » Et il y a eu ce geste magnifique de l'homme qui enlève le madrier qui bloquait la porte de la grotte et qui dit au cinéaste belge, voilà, la grotte que tu as occupée, elle est à toi, tu peux reprendre telle qu'elle.
Donc c'est fort en émotion, ça étonnant. Ça marque.
Oui, ça marque. Ça marque. Et c'est sur le plan romanesque magnifique à dire. ou à écrire.
Alors, donc, vous racontez des choses que vous avez vécues, des choses que vous avez vues, des réflexions que vous avez partagées avec des Tunisiens. Vous avez dit, c'est pas un roman historique. Est-ce qu'on peut le classer comme étant un roman reportage, peut-être, ou un roman documentaire?
Il est un peu tout ça. Il est un peu tout ça. Ouais. Donc, c'est un roman, c'est-à-dire que j'y amène des choses que j'invente, que j'imagine, mm-hmm. notamment l'histoire d'amour qui est racontée là. Elle, bien sûr, elle peut, le cas échéant, retirer certains points de ma vie personnelle, mais pas du tout dans le même contexte. Ça, c'est la liberté du romancier que de mettre ça. Concernant le contexte, là, j'ai tenté d'être le plus fidèle possible à ce que j'avais vu. Mmh. Et donc, la révolution, je crois, est décrite, le soulèvement, comme on dit plutôt aujourd'hui, tout ça est décrit de manière quand même la plus fidèle possible, à la fois dans le déplacement des jeunes qui font cette caravane des démunis, on pourrait dire. Vous évoquiez tout à l'heure les inégalités entre la capitale et les régions lointaines. J'évoque évidemment ça d'une manière romanesque. Alors, et puis voilà, je parle évidemment aussi de la capitale, de ce sit-in sur la Casbah qui a beaucoup marqué les esprits ici.
Par rapport à la marche, justement, un des moments forts que vous décrivez, c'est cette longue marche de plus de 600 kilomètres où des milliers de jeunes des régions différentes, des régions pauvres ou pas pauvres, mais en tout cas, c'est des jeunes, des citoyens qui ont rejoint cette marche vers la capitale. C'est un moment fort aussi que vous avez souhaité retracer, disons, dans ce roman. D'ailleurs, je vous invite, Daniel Soal, à nous faire une petite lecture, un extrait que vous avez choisi et qui raconte un petit peu l'histoire d'un jeune homme qui a choisi volontairement de suivre cette marche vers Tunis.
Tout à fait, tout à fait. Donc, j'ai situé le début de cette marche, en l'occurrence, à Guermassa, dont nous parlions à l'instant. Mm-hmm. Et donc, le jeune qui s'appelle Nizar dit ceci. C'est en quelque sorte son journal. Et il dit « Et si on me disait ce qui se passe ? Tout le monde s'agite. Les frères rassemblent leurs amis. Les parents ne quittent pas la télé. » Là où, à l'instant, on voit un homme face à la police brandir un pain en guise de fusil. Autour de moi, je vois des visages stupéfaits, d'autres exaltés. Dans ma famille, 4 générations de femmes attendent. Grand-mère, maman, mes sœurs et ma petite nièce. Attendent quoi ? Que soient libérés les 2 hommes toujours détenus dans les caves de la police, mon père et mon grand-père. Bientôt libre, Inch'Allah. D'où viendront les nouvelles ? De Tataouine ? De Tunis ? Les femmes veillent et s'occupent. Pendre le linge à la terrasse, laver le couloir à grandes eaux. Paraît que certains détenus, bien qu'amnistiés, craignent de quitter leur cellule. Plus de 60 d'entre eux sont morts, dit-on, on ne sait pas comment. Mes grands frères sont finalement d'accord pour que je les accompagne à Tunis. Déjà, tous leurs copains sont partants, 600 kilomètres depuis Guermassa. J'ai demandé à l'Institut technique de pouvoir quitter, comme je le fais quand il faut participer à la récolte. En classe, tout le monde a applaudi. La prof de français expliquait justement le féminin pluriel. Alors, comme exemple, elle a écrit au tableau les mots « citoyen, citoyenne » et elle s'est mise à pleurer.
Voilà, c'est un extrait donc de ce roman qui vient de paraître en Tunisie chez les éditions Chama, L'avenue, la Casbah, le dernier roman de Daniel Soal. Et donc ça, c'était un extrait du journal de Nizar, donc qui a rejoint cette marche vers la capitale. On parlait donc de ce moment fort qui vous a marqué, qui a marqué les Tunisiens. Alors parmi les choses que vous décrivez également et qui vous ont marqué, c'est cette fraternité qui naît, vous dites, du tumulte. Vous décrivez comment, après la chute de la dictature, le peuple s'approprie le pouvoir, comment les habitants partagent leurs ressources, comment se constituent des comités de protection des quartiers contre les nostalgiques de l'ancien régime et comment des comités locaux contrôlent le passage des voitures.
Tout à fait. J'ai moi-même été contrôlé de cette manière-là. Donc, tout diplomate que j'ai été, on m'a contrôlé et c'était des jeunes qui voulaient savoir qui j'étais et ils ont été tout à fait positifs quand je leur ai dit que je travaillais à l'ambassade de Belgique. Donc, ils m'ont laissé passer. Mais donc, ce que je voulais dire, et ça rejoint ce que vous avez dit à l'instant, c'est qu'il y a eu quand même, et tout le monde le reconnaît, une phase d'un grand civisme qui ont suivi l'immédiat 14 janvier. Mmh. Les gens se sentaient éminemment responsables de la vie sociale. On ne comptait pas sur d'autres. Il n'y avait plus d'autres. Il n'y avait plus de pouvoir. Il n'y avait que les simples gens. Et il n'y avait que des simples gens pour freiner quand le feu est rouge, ou pour laisser passer le vieillard, ou pour faire en sorte que la femme et son enfant puissent traverser tranquillement. Donc il y a eu là un moment exceptionnel de fraternité, on pourrait aussi l'appeler de pleine conscience. C'est-à-dire que on ne peut pas se référer à un pouvoir quelconque, on est soi-même totalement responsable de ce qui se passe. Ça a duré, je pense, un mois ou deux. Et c'est évidemment là encore quelque chose qui, sur le plan romanesque, mérite d'être décrit. Mmh. Il y avait, bien sûr, il y a eu quelques violences, il y a eu quelques désordres, et puis très rapidement, les gens ont réglé les problèmes parce qu'ils savaient que personne d'autre ne le ferait à leur place.
Vous parliez tout à l'heure de cette image de ce citoyen qui tient la baguette comme arme devant.
Une image bien connue, qui nous a tous marqués.
Tout à fait, elle nous a tous marqués et elle a fait le tour grâce aux réseaux sociaux. Et d'ailleurs, vous mettez en évidence l'effet amplificateur de Facebook. Alors, aussi bien dans le déroulement des événements que dans l'amour entre les deux protagonistes, Ellie et Alyssa.
Tout à fait, tout à fait. Facebook a été, on peut critiquer Facebook, mais il faut quand même reconnaître que certainement à ce moment-là, ça a été le moyen le plus efficace pour que les Tunisiens se transmettent l'information. Quand on a vu les premières manifestations à Sidi Bouzid, a fortiori celles dans lesquelles les magistrats et des gens en toge ont pris la tête du cortège, ces images-là, quand elles sont parvenues à Tunis, ont marqué considérablement les esprits. Et je pense aussi que dans les relations individuelles entre les personnes, Facebook a été un moment où les personnes peuvent se parler très librement, somme toute, à travers les messages privés. Et donc, ces deux mouvements, le collectif, le soulèvement et le rapprochement des personnes au plan individuel, ça a été un moment extraordinaire que personne ne pouvait imaginer à ce point-là.
L'avenue, la Casbah, est donc le titre de ce dernier roman. Alors le titre que vous avez choisi, en fait, c'est parce que c'est entre ces deux lieux, disons, que tout s'est joué finalement. L'avenue ou le 14, l'avenue Bourguiba, bien sûr. C'est là où le 14 janvier, des milliers de Tunisiens ont crié « Dégage !» Et puis la Casbah où des sit-ins se sont, mobilisant des jeunes qui ont crié « Après, dégage à la dictature, après le dictateur !» Donc, vous avez fait appel à un militant tunisien pour préfacer ce roman.
Gilles Bernakache est un homme très respecté en Tunisie, qui a été lui-même, on le sait, victime de la répression pendant de longues années. Et quand je lui ai donné ce texte à lire, il l'a trouvé conforme à ce qu'il pense, à ses convictions. Et donc, il a fait une magnifique préface dont je le remercie.
Et on va lire d'ailleurs un petit extrait justement de ce texte. Je cite « Comme cela se produit quelquefois, c'est le regard d'un étranger de passage tombé amoureux du pays et de ses habitants qui va dire le premier que la révolution, suprême transgression de l'ordre social, réintroduit l'amour, le possible et l'improbable avec la poésie qui remplit le cœur de ceux qui se battent pour changer la vie. » Fin de citation, donc Gilbert Nakache qui a préfacé votre roman. Un hommage à la révolution tunisienne. Je vous remercie, Daniel Swal, d'avoir été parmi nous et je vous souhaite bonne continuation.
Merci à vous, merci.
Il est question de la Tunisie dans ce morceau intitulé « A Night in Tunisia ». C'est une chanson mythique du jazz des années 40. Elle parle de la poésie des nuits dans le désert, mais aussi du rêve de liberté et d'identité des Afro-Américains. Mais pourquoi donc parle-t-on de la Tunisie dans cette chanson ? C'est parce que pendant la Seconde Guerre mondiale, l'armée américaine a combattu l'armée allemande en Afrique du Nord, spécialement sur le sol tunisien. Plusieurs milliers de soldats américains y sont morts et leurs dépouilles sont rassemblées dans le cimetière américain de Carthage. La Seconde Guerre mondiale a représenté un moment décisif dans le mouvement d'émancipation des Afro-Américains. Les Noirs étaient engagés au combat comme les Blancs et accueillis en héros par les populations libérées. Mais aux États-Unis, ils subissaient toujours la ségrégation et n'ont pas eu droit au même honneur à la fin de la guerre. Aussi, les années qui ont suivi ont été des années de révolte qui ont conduit au mouvement des droits civiques. La Tunisie représentait donc pendant la guerre l'arrivée sur le sol d'Afrique, le continent d'origine, des Noirs américains. Ainsi, cette Tunisie où la lune est la même lune mais brille comme jamais, où les étoiles vous guident à travers le sable du désert, était un beau symbole de retour aux sources, de paix et d'espérance pour les Afro-Américains. À l'origine, dans les années 40, il n'était donc pas question de Tunisie dans cette chanson qui s'appelait tout simplement « Interlude » et ses paroles étaient complètement différentes. Quelques années plus tard, la version de Charlie Parker et Miles Davis rendait le morceau célèbre sous son titre définitif « A Night in Tunisia ». En 1961, la grande Ella Fitzgerald interprétait la chanson avec de nouvelles paroles évoquant « La nuit dans le désert tunisien ». « La lune est la même lune au-dessus de vous », chante-t-elle, rayonnant de sa froide lumière du soir, mais quand elle brille la nuit en Tunisie, elle brille comme jamais.
The moon is the same moon above you, aglow with its cool evening light. But shining at night in Tunisia, never does it shine so bright. The stars are aglow in the heavens, but only the wise understand that shining at night in Tunisia, they guide you through the desert sand. Words fail to tell a tale too exotic to be told. Each night's a deeper night in a world ages old. The cares of the day seem to vanish. The ending of day brings release. Each wonderful night in Tunisia, where the nights are filled with peace. The moon is the same above you, aglow with its cool evening light. But shining at night in Tunisia, never does it shine so bright. The stars are aglow in the heavens, but only the wise understand that shining at night in Tunisia, they guide you through the desert sand. Words fail to tell a tale too exotic to be told. Each night's a deeper night in a world ages old. The cares of the day seem to vanish. The ending of day brings release. Each wonderful night in Tunisia, where the nights are filled with peace. The moon is the same up above you, aglow with its cool evening light. But shining at night in Tunisia, never does it shine so bright. The stars are aglow in the heavens, but only the wise understand that shining at night in Tunisia, they guide you through the desert sand. Words fail to tell us. a deeper night in a world ages old. The cares of the day seem to vanish. The ending of day brings release. Each wonderful night in Tunisia, where the nights are filled with peace. Each wonderful night in Tunisia.
Vous écoutez Kantara, le magazine de la Méditerranée.
Nous traversons notre belle Méditerranée pour aller vers le nord. Pierre-Louis Alessandri de Radio France Bleu RCFM nous propose une interview de Sampiero Sanguinetti, journaliste, écrivain, ancien directeur des antennes de France 3 Corse. Il publie un livre intitulé Corse, de quoi la mafia était le nom. Il y décrit la problématique de la grande criminalité en Corse en dénonçant le déficit de l'État français dans sa lutte.
Chacun utilise ce mot en entendant quelque chose de différent. La question qui est vraiment importante à travers ça, c'est pas le mot lui-même, c'est de savoir quelles mesures on veut prendre, quelles lois on veut mettre en place, quels tribunaux on désire pour lutter contre la grande criminalité. Voilà, cette grande criminalité, il y a une criminalité très importante, en Corse comme d'ailleurs dans des tas d'endroits, pour lutter contre. La société corse est une société qui est quand même un peu particulière, notamment en raison du faible nombre d'habitants. Et c'est vrai que là, les uns ou les autres, selon la manière dont ils appréhendent le problème, imaginent des législations, des tribunaux particuliers. Et c'est là qu'il y a une vraie discussion à avoir.
Malgré tout, si je reprends votre titre, en Corse, justement, de quoi la mafia peut-elle être le nom ?
J'analyse à travers ce livre toute la manière dont les gens utilisent ce mot. Il y a des magistrats qui l'utilisent, alors avec des contradictions énormes, parce que ces magistrats, dans un livre qui est paru cette année, dans l'année 2019, disent en gros qu'il n'y a pas de bande en Corse structurée comme peuvent l'être les bandes siciliennes ou autres dans ce qu'on appelle la mafia. Donc en gros, c'est pas à travers les bandes criminelles qu'ils voient une mafia, et là, c'est très très grave, parce que deux de ces magistrats finissent par dire, mais ce qui est problématique en Corse, c'est que d'après eux, les Corses auraient une manière d'appréhender la criminalité qui avec une inversion des valeurs, c'est-à-dire que d'après ces magistrats, les voyous sont des héros pour la société corse, hein, ils disent pas pour un groupe particulier ou autre, pour la société corse. Et un autre magistrat finit par dire, la société corse fonctionne comme le grand banditisme.
Alors, sans partager ces analyses, est-ce qu'on ne doit pas nous aussi nous interroger sur nos propres attitudes, nos postures vis-à-vis des mafieux ? Je me souviens qu'avoir couvert des enterrements de personnes du grand banditisme, et ce sont souvent des manifestations aux foules nombreuses et débordantes de sympathie, un ouvrier que l'on enterre ne reçoit pas la même abondance d'affection.
Un ouvrier, non. Bon, la société corse étant une société où il y a une population très faible, hein, 300 000 habitants, c'est un quartier de Marseille ou un quartier de Palerme, c'est extrêmement faible. Et donc effectivement, la perception qu'ont les gens, y compris en désapprouvant...
La considération parfois qui s'exprime malgré tout. Hein.
Je crois que ce problème de la considération ou la manière dont on voit les voyous est un problème qui n'est pas un problème de la société corse, mais qui est un problème de la société occidentale. Et je voudrais donner deux exemples. D'abord, le nombre de films incroyables qui sont faits autour du problème des voyous, de la mafia, des bandits, etc. On en dénombre à l'heure actuelle en gros 350 de films qui existent sur ces thèmes-là et qui ont des succès extraordinaires à travers le monde.
Le plus important étant Le Parrain.
Le Parrain, absolument. Et qui ne sont pas des films qui montrent ces voyous en les désapprouvant totalement. Hein. Ils montrent des tas d'aspects, etc. Et je voudrais donner un autre exemple. C'est en novembre dernier, le 4 novembre exactement, vous savez que le journal Le Monde consacre tous les jours une page à la mémoire d'une personne qui vient de disparaître. Alors, ce sont des gens à qui on rend hommage, et c'est souvent des scientifiques, ça peut être des artistes, ça peut être des hommes politiques, des syndicalistes, etc., des chercheurs. Le 4 novembre dernier, il y a deux mois, l'article en question était consacré à Jackie Humbert, dit Le Mat, grande figure du banditisme marseillais. Ça montre que tout d'un coup, ce personnage a été considéré par le journal Le Monde comme assez important pour être hissé au rang de tous ces chercheurs, artistes, etc., dans le cadre de notre société. Oui, les voyous dans la société occidentale, je ne parlerai pas pour d'autres sociétés parce que ce serait trop long et trop compliqué de dire où ça nous convient. Mais oui, les voyous dans la société occidentale portent des histoires qui sont commercialement extrêmement intéressantes pour cette société, qui se vendent bien au cinéma et qui finissent par conduire à ce qu'un journal, qui est un des journaux les plus sérieux en France, consacre un article entier pour rendre hommage à un personnage comme ça. Et ça montre que effectivement ce problème existe, mais c'est pas un problème de la société corse.
Et nous ne pouvons pas ne pas avoir une pensée à la fin de cette interview à tous les journalistes qui sont dans le viseur de la mafia. Selon Reporters sans frontières, ce sont des dizaines de journalistes qui sont assassinés chaque année par des organisations mafieuses dans le monde. Sans transition, nous allons en Palestine pour terminer notre voyage sur une note festive. Violette Rafidi de Radio Palestine Internationale nous emmène à Beit Lahm, la ville où est né Jésus selon la tradition chrétienne. Elle y a rencontré des enfants, mais également des figures palestiniennes bien connues comme Hanan Ashrawi.
Sur cette terre, il y a ce qui mérite de vivre. Beit Lahm, l'étoile de la paix. Beit Lahm est la ville de la naissance du prophète de l'amour et de la tolérance, la naissance de Jésus-Christ. Cette ville sainte, avec ses rues et ses églises, embrasse chaque année, le 25 décembre, des centaines de pèlerins du monde entier pour célébrer la naissance de Jésus-Christ dans une joyeuse atmosphère et rempli de grands plaisirs et délices. Célébrer Noël est différent pour les Palestiniens, car il s'agit d'une atmosphère mixte de joie et de tristesse, ainsi qu'ils associent la joie au défi d'une occupation arbitraire, une occupation qui n'hésite pas à priver le peuple palestinien de son droit de vivre en paix et de célébrer les occasions religieuses et nationales. Malgré toutes les circonstances difficiles, les Palestiniens vivent en fraternité. De nombreux musulmans de Beit Lahm célèbrent également Noël, parfois même avec des pèlerins chrétiens ensemble. Pendant plusieurs heures, les fanfares de scouts ont défilé de l'entrée de la vieille ville à la basilique de la Nativité. Quant aux familles, elles chantent côte à côte des chansons de Noël et le Père Noël distribue les cadeaux aux enfants. Lors de notre tournée à Beit Lahm, nous avons rencontré Dr Hanan Ashrawi, qui a transmis un message profond au monde entier. C'est une atmosphère de joie et d'espoir, une atmosphère qui nous donne le bonheur et l'optimisme pour assister à une paix véritable. Il est évident et sans aucun doute que cette atmosphère indique que le peuple palestinien est un peuple qui aime la vie et sacrifie la joie, l'art, la culture et la beauté. Malgré l'occupation arbitraire qui nous a été imposée et malgré les circonstances difficiles dont nous souffrons tous, nous insistons pour avancer et célébrer notre identité, notre histoire et notre appartenance. Je souhaite une bonne année pour le peuple palestinien et j'encourage chaque personne à conserver son principe et à continuer à défendre sa patrie. Et parce que les enfants donnent la vraie joie de la fête, nous avons rencontré l'enfant Fadi, qui nous a ravis dans son discours sur le vrai sens d'une célébration de Noël en Palestine. La naissance du Jésus-Christ est la naissance de l'amour et de la tolérance. Ce n'est ni un arbre ni une grotte, car c'est un symbole. Et le vrai sens de la fête est de se sentir avec les pauvres enfants qui vivent seuls, sans famille. Le meilleur moment de Noël, où je ressens le plus de joie, quand je vais dans des orphelinats et distribue des cadeaux aux enfants, et pour répandre l'amour et le bonheur entre eux, et quand nous leur faisons sentir qu'ils méritent la joie, l'amour et la paix, comme tous les autres enfants. Quand à cette année, elle est différente, car je suis allée avec la chorale de chant dans des hôpitaux et des maisons de retraite. Et nous avons chanté pour eux et partagé la joie de la fête. Je prie Dieu de nous libérer et j'espère que nous célébrons Noël l'année prochaine à Jérusalem, la capitale éternelle de la Palestine. Je transmets un message profond aux enfants du monde entier et je leur dis, n'oubliez pas les enfants de Palestine.
Et on rejoint notre collègue de Radio Palestine International pour présenter nos meilleurs vœux aux enfants palestiniens et à tous les enfants du monde en rappelant les lois et les conventions internationales qui affirment que les droits des enfants doivent être respectés même en période de guerre ou de conflit armé et que les enfants ne sont pas responsables et ne doivent pas devenir les victimes des adultes.
Kantara, une autre idée de la Méditerranée.
Et nous voilà arrivés à la fin de ce numéro de Kantara réalisé par Mayada Sili de Radio Tunis, chaîne internationale, avec la précieuse collaboration technique de Wafe Bouzaïda. Je vous rappelle, chers auditeurs, avant de vous quitter, que Kantara est un réseau de coopération méditerranéenne qui englobe Dina Abdelmegid de Radio Le Caire, Nadir Aboulkhoutout de la chaîne Inter Maroc, Nanette Ziadé de Radio Liban 96.2, Pierre-Louis Alessandri et Pierre-Louis Sardi de France Bleu RCFM, Imen Ouanzar de Radio Extérieure d'Espagne et Violette Rafidi de Radio Palestine International. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine et n'oubliez pas de consulter notre page Facebook pour réécouter ce numéro et les numéros précédents. À très bientôt.